debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves, déprisons nos entraves. Debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Nos entraves, debout, debout. Levons nos femmes esclaves et jouissons sans entrave, debout, debout.
Bonjour et bienvenue à cette émission du collectif Debout, collectif féministe nancéien et mixte. Donc moi c'est Sarah.
Et Maya.
Florian.
Et Hélène.
Et Katia.
Donc pour cette émission, on a choisi d'aborder une thématique assez précise mais quand même large. La question qu'on s'est posée, c'est dans un monde plus écologiste, quelles conséquences y aurait-il pour l'égalité hommes-femmes. Et donc, pour cette émission, on a invité donc, deux personnes du collectif C14, donc Florian et Hélène. On va peut-être commencer par présenter votre collectif.
Oui, alors le collectif C14 est un collectif colporteur d'alternatives pour une société décroissante, donc qui existe depuis maintenant 4 années. Créé à l'origine par 14 personnes, d'où le nom C14. Son but est en fait, à travers des débats ou des actions publiques, d'amener les gens à prendre conscience du fait qu'on vit sur une société finie et donc qu'il faut remettre en cause la croissance.
Remettre en cause la croissance. Donc c'est aussi une thématique qu'on appelle la décroissance. Beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire, pensent que ce qu'on appelle la décroissance, c'est le retour en arrière, la bougie, tout ça, on entend souvent ça. Donc l'idée, c'était quand même de commencer cette émission par un petit peu une définition de ce que c'est la décroissance, de quoi on parle quand on parle de décroissance.
Alors, la décroissance, en fait, c'est un mouvement politique qui a été créé à l'origine dans les années 70
le mouvement des objecteurs de croissance.
Et qui partait au départ du constat que nous vivions sur une planète aux ressources finies
Et qu'on n'allait pas pouvoir continuer comme ça, parce que le modèle, donc on est dans un modèle de société donc de croissance, c'est pour ça que le mot décroissance intervient, et que croître, la Terre a des limites. Je ne sais pas si on peut compléter du coup.
Oui, alors ce qu'on appelle la croissance, donc c'est la croissance économique, c'est donc le PIB, le produit intérieur brut, donc c'est-à-dire qu'on va mesurer ce que l'on fabrique en termes de quantité d'argent, donc de la valeur qu'on va mettre. Et voilà, partout on nous dit la solution au problème du chômage, la solution à tout, c'est la croissance. On veut le retour à la croissance, c'est terrible. Là, on est dans une année de croissance zéro. Et donc, la solution à tous les problèmes économiques, ce serait cette croissance économique. Et donc, l'idée, c'est de remettre en question ce mythe. C'est bien ça ?
C'est ça. Et en fait, remettre en cause ce mythe, c'est remettre aussi en cause certains fondements de la société capitaliste qui ont été mis en place il y a à peu près une cinquantaine d'années, à savoir la surconsommation comme base de la société. Le fait aussi de créer de faux besoins, à savoir est-ce qu'on a besoin, par exemple, d'un écran plat dans chacune de nos chambres. Est-ce que on doit avoir deux ou trois voitures ? C'est tout un tas de questions qu'on peut se poser. Et également, donc le fait de créer de faux besoins et d'encourager à la surconsommation, ça a passé par la mise en place du crédit, donc afin de permettre aux ménages de pouvoir consommer plus.
Donc une société basée sur la consommation, donc remettre en question ça.
Je pense qu'il faut ajouter aussi que ce n'est pas étonnant que dans les années 70 a été développée la première fois la mise en cause du capitalisme, parce que dans les années 70, pour un petit rappel, il y avait quand même la crise des pétroles. Et alors, la question s'est posée, combien de temps est-ce qu'on a encore le pétrole? Il y a plein de choses, comme déjà bien sûr la voiture, mais aussi des médicaments, les plastiques et tout ça, qui est basé sur le pétrole. Et si on n'a plus de pétrole, tout ça, la consommation, de toute façon, on ne pourra plus le faire.
Et finalement, le mythe, c'est de croire qu'on peut continuer comme ça indéfiniment. On arrive quand même aux ressources planétaires à leurs limites. On arrive dans un mur. Et donc, l'idée de la décroissance, c'est on voit le mur, on s'approche du mur. L'idée, c'est pas seulement de ralentir et d'essayer de recycler un petit peu ou de peindre en vert tout. L'idée, c'est le mur est là, il faut qu'on s'arrête et qu'on prenne un autre chemin.
Justement, comment on imagine une société décroissante, quelle façon de vivre pour remplacer la société qu'on appelle de consommation?
Ça passe par une remise en cause de ce qu'on va produire dans la société, une remise en cause aussi des matériaux qu'on va utiliser, à travers les questions de la consommation biologique, des fruits et des légumes bio produits localement. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être aussi une réduction du temps de travail afin de permettre de partager ce temps de travail et donc d'éviter d'avoir une partie de la population qui reste au chômage et qui ne peut pas en vivre. Et d'un autre côté, donc un point qui fait polémique chez certaines mouvances décroissantes, mais la mise en place du revenu inconditionnel d'existence, qui est un revenu pour toutes les personnes.
Le revenu donc inconditionnel, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors avant d'aller sur le vif du sujet, on va passer une petite chanson. Tu voulais dire quelque chose, Maya, déjà?
Oui, parce que ça va plus loin que ça. Là, on remet en cause notre mode de consommation, notre mode de production. Mais ça veut dire aussi remettre en cause les liens entre les personnes. Un des slogans de la décroissance, c'est moins de biens et plus de liens. Et c'est vraiment avoir aussi un autre rapport au temps, un autre rapport aux autres, un autre rapport au travail, un autre rapport à la vie. Donc vivre mieux, mais avec moins. Consommer mieux, mais moins. Et voilà. Enfin, cet aspect décoloniser l'imaginaire aussi, où on n'arrive pas, ne serait-ce qu'à voir comment est-ce qu'on pourrait vivre autrement. Et c'est un des gros aspects. En fait, ça remet en cause vraiment toute notre société qui est basée là-dessus, sur une consommation où le bonheur serait dans la consommation, dans les objets. Et donc, l'objection de croissance, eh bien, c'est se dire que c'est peut-être pas la meilleure chose non plus. Et quand on est dans un contexte de crise, où justement, on remet en cause la possibilité d'accéder à la surconsommation, eh bien, c'est important aussi de se dire que si on veut rester maître de notre destin, il faut aussi se donner les moyens de pouvoir vivre autrement, et que cette décroissance qui va arriver forcément, puisqu'on est dans un monde avec des ressources finies, on ne peut pas croître infiniment, donc c'est choisir plutôt que subir.
Alors, en transition, donc, pour rester dans la thématique, donc une chanson du groupe Assassin, une chanson qui s'appelle « Sauvons la planète ».
Cela devient banal de parler d'ozone, mais sans elle personne n'est autonome, car l'ozone nous protège du soleil. Et sans un radical changement dans les comportements, ni la prévention, ni les conseils, ne sont qu'on sait catastrophe naturelle. Naturellement pas, car les victimes
respecter la nature. Sachant que si l'air est dur, il peut y avoir un futur. Mais déjà Mexico, Tokyo, New York agonise. Et bientôt toute la planète sera compromise. Prenez conscience, pensez à la prochaine génération. Le futur de la planète dépend de notre éducation. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Des forêts entières, en ayant pris conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre. Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une ronde pour les pays aux ressources vitales économiquement au plus bas? Pourquoi l'armée continue ses essais nucléaires? Tu en on le sait, tout vit dans les fonds des mers. D'abord un trou dans l'atmosphère, plus non-respect de l'environnement par les puissances qui détiennent le monopole de l'argent. L'industrie mondiale est coupable de l'usine nucléaire de Tchernobyl à la constante disparition de la mer d'Aral, de la forêt, de l'Amazonie. Alors putain d'économie qui régit la vie dans le pays. Animal et le but de ces conneries. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elles vont en accord avec les essais nucléaires. Non. Elles vont en accord avec la pollution des mers. Non. Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Non. Sauvons la terre, sauvons la terre. Je crois en l'homme et l'homme doit croire en sa planète. Yeah. La nature c'est la vie n'est pas une conquête. Non. Le progrès n'est pas contrôlé, voilà pourquoi bientôt l'échec sur la planète, sur la planète, sur la planète.
Donc vous écoutez l'émission du collectif Debout sur RCN 90.7. Aujourd'hui, nous nous posons la question, un monde plus écologiste, quelles conséquences pour l'égalité homme-femme, en compagnie donc du collectif C14. Une petite citation pour continuer.
Alors la décroissance et le féminisme ont au moins un point en commun, c'est que tous les deux sont des gros mots. Donc c'est une petite citation qui est écrite en commun avec Katia du collectif Debout et Damien du collectif C14.
Oui, alors les gros mots qui font peur. Féministe, nous, bah voilà, on a l'habitude. Hein. Féministe, vous êtes contre les hommes. Attention aux dérives. Alors que le féminisme, c'est pas du tout ça. Le féminisme, c'est vouloir l'égalité entre les êtres humains. Et voilà, souvent les gens bloquent sur ce mot parce qu'il y a femme dedans. décroissance, il me semble que c'est pareil. Et souvent, décroissance, c'est le retour à la bougie, c'est un retour en arrière. Et décroissance, c'est pas du tout ça. C'est questionner un modèle qui n'est pas viable, qui nuit aux êtres humains, qui nuit à leur environnement. Et surtout, ce qu'il y a en commun entre décroissance et féminisme, c'est que c'est des notions de progrès social. Donc pour la décroissance des inégalités, par exemple.
Donc vous l'auriez compris, on se pose des questions du lien entre féminisme et décroissance pour se demander si ce sont réellement des thématiques, des projets compatibles.
Donc une des thématiques qui est commune aussi à la décroissance et au féminisme, c'est la critique du capitalisme. Donc il faut savoir que pour les mouvements décroissants, le capitalisme c'est la source majeure de pollution des planètes avant le côté individuel. Pour le féminisme, c'est à la fois une source d'inégalité pour les femmes. Et il faut savoir que le capitalisme a été créé en partie par la société patriarcale.
Oui, alors toutes les féministes ne sont pas anticapitalistes, nous on l'est clairement. Et par exemple, on a rejoint le mouvement international qui est la Marche mondiale des femmes. Et dans ces thématiques, il y a bien commun, bien public, et donc se poser la question des ressources, ces ressources qui nous font vivre, ne serait-ce que l'eau. Voilà, l'accès à l'eau pour les populations à travers le monde, eh bien souvent cet accès à une eau saine est remis en question par les industries polluantes, par une privatisation des biens. Et donc c'est les femmes qui s'occupent principalement dans le monde de ces ressources, qui sont aussi principalement touchées par les pollutions qu'il y a par rapport à ça. Voilà aussi la question du travail nuisible, travail comme étant vraiment une nuisance sociale. Le travail qui est valorisé, c'est la production de biens qui sont une menace même pour la planète, qui sont dégradants pour leurs conditions de travail. Donc effectivement, ça revient à critiquer le capitalisme, l'appropriation des ressources communes pour un profit à court terme. Donc oui, vraiment, c'est une critique du capitalisme.
Alors, dans la décroissance, ce que j'aime bien aussi, que souvent, ils se battent en lien avec le thème d'un revenu inconditionnel pour une nouvelle définition du mot « travail ». Ben, qu'est-ce que c'est du travail? Parce qu'aujourd'hui, ce que valoriser, ça veut dire bien payer. C'est Maya, elle avait déjà dit, ce sont des travaux productifs. Mais des travaux services à la personne, où il y a beaucoup de femmes, comme dans le travail social, la petite enfance, l'éducation, il y a énormément de femmes et c'est très mal payé. Alors du coup, ça veut dire que c'est dévalorisé aujourd'hui dans notre société des travails des femmes entre très grandes guillemets, je veux dire travail des femmes où aujourd'hui se trouvent beaucoup de femmes dans ce métier-là.
Alors, un autre point commun qu'on peut évoquer entre les notions, donc les projets de société féminisme et décroissance, c'est que les choses ne sont pas toujours bien comprises. C'est-à-dire que quand on peut en échanger de ces thématiques, les gens parlent de leur vie quotidienne, de ce qu'eux, ils font quotidiennement pour protéger la planète, de ce qu'eux, ils font quotidiennement pour l'égalité homme-femme, en oubliant souvent que ce sont réellement des projets de société et que c'est pas uniquement des actions quotidiennes, que c'est un changement radical de société. Donc ça semble un point qui est important à rappeler.
Je pense, par rapport à ça, des fois, si on parle avec des personnes qui se croient écologiques, on a l'impression que l'écologie, c'est uniquement une question des couples. Ça veut dire le partage des tâches, c'est une question dans les couples qui se négocie uniquement dans les couples. Et là, je pense, on ne peut pas dire que c'est, quelles tâches on peut quotidiennement d'être écologique. Ça peut être par exemple, à la place prendre la voiture, prendre les vélos, utiliser des couches lavables pour son enfant. Il y a plein d'autres possibilités, manger bio, acheter localement, etc. Mais là, j'ai envie de dire, c'est pas que une question en sein du couple, ça doit aussi d'être une question de la société, parce que je prends là un exemple de la classe moyenne. Bon, il y a d'autres exemples aussi d'autres classes. Par exemple, si un couple se décide d'acheter une maison. Et après, il y a la question qui s'occupe plus des enfants, qui réduit le temps de travail. Souvent, c'est la femme qui le fasse, mais pas forcément parce qu'elle n'est pas bien dans son métier, etc. Parce qu'elle a le salaire plus petit que son homme, que son mari.
On revient vraiment à une question de société. Là, l'exemple des inégalités de salaire qui sont à peu près en moyenne de 25%, donc inférieure de 25% pour les femmes par rapport aux hommes en France. Donc c'était un des exemples de choses qui tient à la société, quoi.
Alors effectivement, la question écologique, souvent on vous dit, voilà, faites un geste pour la planète. Alors oui, bien sûr, c'est important de remettre en cause notre utilisation quotidienne des ressources et des choix qu'on peut faire individuellement. Mais le plus grand pollueur, c'est l'industrie. Et ensuite, c'est l'agriculture. Et les directions politiques qui sont données à l'industrie, à l'agriculture, là on n'est pas, on sort vraiment du champ individuel, et c'est ça le gros point noir, la plus grande source de pollution. Et voilà, moi, c'est pas en coupant mon robinet quand je me lave les dents qu'on va empêcher les rejets toxiques dans les fleuves et dans les rivières, qu'on va arrêter le nucléaire, qu'on va arrêter de financer une agriculture destructrice qui utilise des produits issus de la guerre, de la guerre chimique, et qu'on va arrêter de nourrir des populations avec ça, qu'on va et toutes ces questions là la question des semences aussi, la question de Monsanto par exemple.
Alors, pour résumer encore une fois, bien sûr, de faire quelque chose pour la planète individuellement, c'est très très important, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi sur l'échelle sociétaire, qu'il y a des choses qui se fassent.
Et bon, alors il y a la représentation politique. Et effectivement, les personnes qui décident de financer une agriculture polluante, ce sont par exemple les élus, qui sont à 80% des hommes. Les propriétaires des grands groupes industriels, ce sont des hommes. Donc c'est aussi questionner le patriarcat et les valeurs qu'on a voulu mettre en avant. Dans cette recherche de profit à court terme, sans s'occuper des conséquences que ça peut avoir sur les êtres humains, sur la vie quotidienne.
Et ce sont aussi des personnes, donc ces personnes qui dirigent les groupes et ces élus, c'est aussi des personnes qui sont pour la croissance. Et donc on n'a pas de représentants au niveau politique qui représentent le mouvement de la décroissance.
C'est un point important d'agir de façon globale. C'est pareil, je pense aussi pour le féminisme. C'est pas un courant de pensée qu'on va retrouver majoritairement au sein des décisionnaires. Il y avait un autre point qu'on peut aborder sur les points communs entre féminisme et décroissance, surtout sur le côté société de consommation. Il y a tout ce qui est publicité, incitation à la consommation. Et justement, où là, ce que disait Maya tout à l'heure, l'incitation à posséder des biens. Parce que du coup, il y a plein de biens qui sont produits par ces industries que t'évoquais, Maya. Et ces biens, il faut les vendre. Alors, on va faire beaucoup de publicité pour vendre des choses, la plupart du temps, pas réellement utiles, qui apportent pas réellement quelque chose au quotidien des personnes. Et dans ces publicités, ce qu'on retrouve aussi, c'est vraiment des stéréotypes sexistes qui sont véhiculés sur vraiment les stéréotypes hommes-femmes tels qu'on peut les retrouver habituellement. L'homme et la grosse voiture, la femme et sa lessive. Si on regarde la télévision, je crois qu'on retrouve ça assez fréquemment.
Et la question de la publicité, au collectif Debout, nous, on s'intéresse depuis le début. Je pense par exemple à l'action qu'on avait faite pour rejoindre la Marche mondiale des femmes en 2010, où l'idée, c'était justement de faire parler les femmes publicitaires. Donc quand on parle de société de consommation, la femme est devenue aussi un bien de consommation, considéré comme un objet qui fait vendre. Aussi considérée comme une cible publicitaire, la ménagère de moins de 50 ans existe toujours. Publicité qui va transmettre une idéologie qui est toujours la même, reproduire aussi tous les stéréotypes qui sont
le stéréotype sexiste, et puis aussi le côté devenez quelqu'un d'important en ayant tel ou tel objet, parce que c'est ça, ce qu'on retrouve, les messages véhiculés dans la publicité. On retrouve des messages sexistes et on trouve aussi des messages qui disent clairement il faut avoir ces objets là pour être quelqu'un, quoi.
Et par la publicité, on peut dire tout simplement qu'il y a une image, l'idéal qui circulait, c'est la famille, la petite famille, voilà, homme, femme et deux, trois enfants dans une petite maison, dans une petite maison, et cette image-là qu'il faut avoir, ça, c'est l'idéal, hein, c'est par rapport à la consommation, c'est aussi quelque chose qui n'est pas possible pour tous les êtres humains sur la planète, ça ne marcherait pas.
Donc ça, le monde finit, quoi.
Je vais reprendre une phrase du Canard Enchaîné. Qui mieux que la pub a contribué ces dernières années à fabriquer l'image de la femme qui s'occupe de la cuisine, qui torche les gosses, leur prépare la purée, n'a pas droit au bourrelet et doit se tartiner le visage de crème à la papaye verte pour ne surtout pas vieillir. Et voilà, on mène régulièrement des actions aussi contre la publicité. Faire parler les femmes publicitaires, voilà, quand on met une femme nue pour vendre une voiture ou quasiment nue, voilà, c'est de lui faire dire j'ai froid, j'ai faim. Un des slogans, c'est ni à prendre, ni à vendre.
On avait fait une action comme ça en 2010 quand on s'est créé. Donc, dans les rues de Nancy, on avait mis des bulles. On avait fait parler les femmes des publicités, que ce soit dans les vitrines ou sur les affiches, en leur faisant dire qu'elles allaient à la marche mondiale des femmes, hein, qui avait lieu à Paris, mais aussi avec ces slogans dont parle Maya.
Voilà, elle est à la télévision qui est là aussi pour formater à quoi on doit ressembler, qu'est-ce qu'on doit faire. On essaye beaucoup de se conformer à ces modèles qui sont décidés par des nuisibles.
et ces publicités nous réduisent donc à l'état de consommateur, et donc ni totalement la capacité de création et de réflexion de l'individu. D'où l'idée dans le mouvement de la décroissance de parler de créer plus de liens en consommant moins de biens.
Plus de liens, moins de biens, c'est un slogan important. Alors là, on aborde comment ces deux projets de société ont des points communs. Avant d'aborder un peu plus les éventuels risques qu'il y aurait pour l'égalité entre hommes et femmes si on vivait dans un monde plus écologiste, je vous propose d'écouter une chanson qui parle ce coup-ci alors des tâches ménagères, hein, comme on a pu l'évoquer, parce que un monde décroissant où on fait plus souvent les choses soi-même. Ça veut dire peut-être plus de choses à faire à la maison, éplucher les légumes, cuisiner, etc. Et donc là, voilà, une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle « La vaisselle ».
Qui c'est qui fait la vaisselle ? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle ? Les mains dans la merde. Mais tout change, et voici Jules qui lange les fesses de l'héritier. Il balaye, et bientôt quelle merveille, il astique le plancher. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle ? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle ? Les mains dans la merde. Mais tout bouge, et voici que les yeux rouges, il fait cuire le rôti. Il cuisine, quelle splendeur assassine. Fait la plongée, il essuie. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle ? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle ? Les mains dans la merde. Mais tout marche, mais ça marche. Et voici qu'il ne se cache quand il reste à la maison. C'est Germaine qui ramène tout l'argent de la semaine. Ce n'est pas contre raison. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle ? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle ? Les mains dans la merde. Mais il l'aime, mais il s'aime. Et ce n'est pas un problème de savoir qui va porter la culotte ou bien les bottes. Et le seul drapeau qui flotte, c'est une tête d'oreiller. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle ? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle ? Les mains dans la merde. Mais voici que sonne l'heure de traîner l'enfant qui pleure vers l'école au banc de bois. L'enfant de Germaine et Jules, sans y penser, articule dans les livres d'autrefois. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle ? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle ? Les mains dans la merde. Tout recule, tout recule.
recule et plus tard le petit Jules aura des enfants aussi qui derrière leur cartable dans l'école imperturbable épelleront ces niaiseries. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde? Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Oh ben non.
Encore une chanson très ironique d'Anne Sylvestre. Vous écoutez l'émission du collectif Debout sur RCN 90.7 et aujourd'hui nous nous posons la question: un monde plus écologiste, quelles conséquences pour l'égalité homme-femme, en compagnie du collectif C14?
Alors, on se posait la question avant la pause musicale des risques que pouvait représenter une société qui serait plus écologique. Alors, parmi ces risques, on pourrait se poser la question de certains progrès technologiques qu'on nous a vendus, comme la question du lave-vaisselle. Alors, certains, nos générations précédentes ont accueilli le lave-vaisselle avec bienveillance comme quelque chose de très positif. Sauf que ce qu'il faut se poser comme question, c'est le lave-vaisselle, d'où provient-il et comment est-il produit ? Donc, il faut savoir que ce type d'appareil est produit dans des pays qu'on dit du tiers-monde, avec donc des inégalités de répartition de richesses et des inégalités hommes-femmes qui sont bien pires que dans les pays occidentaux, et qui laissent quand même en suspens un certain nombre de problèmes au niveau de la répartition des tâches, c'est-à-dire que le lave-vaisselle, qui c'est qui va le remplir, qui c'est qui va ranger la vaisselle. Donc ça reste des questions en suspens.
Ça veut dire des machines comme la lave-vaisselle, mais aussi la machine à laver. Bah, bien sûr, ils ont, dans certains côtés, ils ont libéré la femme. Voilà. Ils ont libéré la femme qu'elle a plus du temps aujourd'hui. Mais malheureusement, 80% des tâches ménagères sont toujours faites par les femmes. Ça veut dire qui allume cette machine, c'est la femme le plus souvent encore aujourd'hui. Alors, moi, j'ai envie de dire, les femmes, elles ont gagné plus de temps, mais d'une libération des femmes, moi, je trouve, on n'est pas encore au bout.
Et puis, qui produit aussi des travails sous-payés, des conditions dégradantes pour produire tous ces biens de consommation? Bah, effectivement, ça se fait à l'autre bout du monde. Ça se fait dans les industries du textile, par exemple, avec les conséquences désastreuses que ça a eues, dont on parle encore. Des morts qu'il y a eu dans les incendies. Enfin, c'est aussi c'est une manière aussi de repousser le problème, de pas le voir parce que ça se passe ailleurs, mais derrière c'est toujours la même logique, une logique de profit, une logique d'exploitation de l'homme par une petite catégorie des hommes, et c'est pas un progrès social. Alors, il y a des progrès techniques, oui, bien sûr. La vaisselle, d'ailleurs, c'est une femme qui l'a inventée. la question du progrès technique, déjà, elle empêche de se poser la question nécessaire du progrès social, du progrès humain, de tous les progrès qu'il y a encore à faire dans notre organisation, comment on choisit de s'organiser, comment on répartit le travail, quel travail on fait. Donc voilà, c'est un moyen de mettre de côté ces questions qui sont nécessaires, que ce soit pour un monde plus écologique ou pour un monde plus égalitaire. Là, ça revient vraiment au même.
Et on le voit bien, notre société est focalisée sur le progrès technique et non sur le progrès social ou sur le progrès en termes d'écologie. Et par exemple, on peut se poser la question de quel progrès représente un robot qui va passer l'aspirateur à notre place, ou un robot ménager qui va faire la soupe à notre place. Et en étendant, puisque là on reste au niveau des tâches ménagères, mais on peut étendre aussi à des projets, comme le projet de centre commercial de l'Eure à Lille, qui doit être construit sur des terres agricoles. Et on peut se demander, ça va produire d'un côté un nouveau centre commercial, donc un nouvel objet de consommation, des nouveaux... de nouveaux panneaux publicitaires et contre la destruction de terres agricoles qui auraient pu servir à produire de l'agriculture biologique, par exemple.
C'est-à-dire que la consommation matérielle, ce qu'on appelle le progrès, en fait, n'est pas forcément synonyme de bien-être collectif. Et maintenant, on arrive à voir les limites aussi et voir que le bien-être collectif, il se situe ailleurs. Les besoins sont ailleurs.
Et comme c'est un jour ce modèle de société qu'on peut dire de consommation ou consumériste qui va jusqu'à l'absurde, je crois qu'il doit exister des robots de cuisine pour tout et n'importe quoi, ce qui fait que c'est quand même des produits qui sont produits par une industrie qui se base sur des ressources qui sont épuisables, une industrie qui va polluer avec on l'évoquait tout à l'heure l'exploitation de personnes dans des pays où la situation sociale ne permet pas un respect des droits humains, de droits sociaux, de salaires, etc. Donc on va très très loin sur cette société de consommation jusqu'à l'absurde, quoi.
Alors, des exemples d'absurdes, il n'en manque pas. Je pense, par exemple, il y en a qui ont calculé le nombre de camions qui allaient de France en Italie pour livrer du lait. Eh ben, il y avait exactement la même quantité de camions qui livraient du lait entre l'Italie et la France. C'est-à-dire que, alors c'est bien, ça fait de la croissance, hein, ça fait du travail, on paye des camionneurs, les gens pour charger les camions, ensuite pour construire ces routes, etc. Et donc on va emmener autant de lait de la frontière française à la frontière italienne que de lait de la frontière italienne à la frontière française. Donc voilà, c'est juste du travail inutile. Il y a sûrement des choses plus intelligentes à faire pendant ce temps. Un autre exemple, les publicités vont nous inviter à consommer de la nourriture, des choses alléchantes, manger McDo, manger Pizza Hut, etc. Et puis après, on va vous vendre des produits amincissants. Donc, on est dans une perte de sens aussi qui se ressent dans le monde du travail. Et il y a un mal-être au travail, là, actuellement, dans les sociétés occidentales, qui est réel et qui aboutit à des dépressions. Donc, vous allez pouvoir ensuite consommer les produits pharmaceutiques qui vont pouvoir résoudre les problèmes qui ont été créés précédemment. Et jusqu'où on va aller dans l'absurde ? À un moment, voilà, il faut dire, arrêtons un modèle qui va dans le mur. Et c'est aussi pour ça que cette formule qui est un peu provocante de décroissance, c'est vraiment dire, arrêtons-nous, prenons le temps de réfléchir. D'ailleurs, l'image de la décroissance, c'est l'escargot.
Oui, plus ce que disait tout à l'heure Florian, plus de liens, moins de biens. Donc c'est quand même un point important. Après, peut-être c'est intéressant de développer un peu pourquoi on a voulu se poser cette question, un monde plus écologiste, quelles conséquences pour l'égalité homme-femme ? Parce qu'il y a quand même pas mal de courants écologistes qui existent et tous ces courants ne prennent pas forcément en compte cette problématique. Non, ou la prennent en compte différemment. Enfin, c'était oui pour aborder sur.
J'ai envie de parler sur est-ce que l'écologisme peut apporter aussi des risques pour des femmes par rapport. Est-ce que il va continuer d'avoir une égalité entre hommes et femmes ? Et alors, du coup. Je vais nommer ici une féministe qui met en cause l'écologisme. C'est Elisabeth Badinter. Et dans plusieurs de ses livres et textes, elle critique beaucoup, beaucoup l'écologisme parce qu'elle dit que l'écologisme est aussi un grand risque pour les femmes parce que des fois, les courants écologistes et décroissants, ou voilà, tout ce qui va dans cette direction, ça peut avoir des côtés moralisateurs. Ça veut dire, par exemple, si on pense combien de couches jetables produit un seul bébé, etc. Voilà, c'est, j'ai la chiffre. Je vais citer Elisabeth Manater ici. On a calculé qu'un bébé entre 0 et 30 mois produit, à lui seul, une tonne de déchets, lesquels mettraient 2 à 5 siècles à se dégrader. Moi aussi, moi, je lis ça, je me dis, ah oh mince, mais il faut vraiment que j'utilise des couches en tissu, parce que c'est vraiment énorme. Bon, alors, du coup, mais là, ça pose la question, aujourd'hui, actuellement, on est quand même encore dans une société, comme je disais déjà tout à l'heure, que 80% des tâches ménagères, c'est toujours fait par des femmes. Mais est-ce que ça veut dire maintenant que, autant que mère, c'est moi qui lave les couches lavables? C'est qui les lave, les couches lavables?
Oui, c'est justement aujourd'hui, dans notre modèle de société, ça reprend aussi cette thématique du travail. Hein. Maintenant, la plupart des femmes travaillent, mais assument aussi en majorité les tâches ménagères. Donc, si on revient à un modèle de société où on évite d'utiliser tous les produits jetables, parce qu'on parle des couches, mais combien il existe de produits jetables? Des lingettes pour nettoyer, des mouchoirs. Enfin, il existe des tas de produits qui sont faits comme ça, consommés, jetés, et qui ont un coût écologique à la production. Et puis après les déchets qui sont produits, donc c'est
Je trouve, si on se pose la question de vouloir vivre plus écologique, dans les couples ou avec les gens qu'on vit, il n'y a que la seule solution si on veut continuer que tout le monde est bien à la maison, etc. Il faut diminuer son temps de travail, mais pas que les femmes, aussi les hommes,
travailler moins.
Et tous ces produits jetables qui ont été créés n'ont pas du tout servi à émanciper les femmes, au contraire. Et on voit bien qu'il y a une différence entre ce qu'on va appeler le progrès technique et les changements de mentalité d'un autre côté. C'est-à-dire que si le lave-vaisselle ou le lave-linge a constitué un progrès, la répartition des tâches ménagères n'a pas été remise en cause. Et donc ça, c'est un des éléments contre lesquels il faudra se battre dans le cadre d'une future société.
Mais effectivement, quand on a en charge et la responsabilité du travail salarié, par exemple les mères célibataires, hein, elles n'ont pas tellement le choix, et la responsabilité des tâches ménagères et le s'occuper des enfants et faire les courses, etc. On est dans une pression au temps qui est vraiment très forte. Et voilà, c'est ça l'argument aussi pour inviter à utiliser des produits jetables, c'est gagner du temps. Et donc c'est pour ça que c'est aussi important de se poser la question de comment libérer du temps. On a parlé tout à l'heure du revenu inconditionnel. Voilà, c'est une solution aussi pour permettre de respirer. Il faut qu'on respire, vraiment. Et ce que dénonce Elisabeth Badinter, c'est le fait que toute la responsabilité, elle repose uniquement sur les femmes. Et surtout, à partir du moment où elles deviennent mères, la répartition, même au sein d'un couple, des tâches ménagères, elle change énormément à partir du premier enfant, où c'est la femme qui va s'occuper encore plus des tâches ménagères. Et c'est une tendance qui s'accroît au fur et à mesure des enfants. Donc là, on parle de couples hétérosexuels. normé, mais voilà, c'est ça. L'idée d'Elisabeth Badinter, c'est que la cause écologique, elle est opposée à la cause des femmes. Ben, là, on est en désaccord, parce que c'est vraiment toujours dans ce même système de pensée où tout est fait pour qu'on ait du temps, que notre temps soit consacré au travail salarié. Et à la consommation. Et nous, on a envie de vivre, on a envie de respirer, et on a envie que toutes les femmes puissent respirer et vivre. Et ça veut dire effectivement se poser la question de la répartition des tâches aussi.
Je pense là où on est absolument d'accord avec Elisabeth Badinter, c'est que... par exemple, je vais prendre, parce que sur ça, Elisabeth Badinter, elle a écrit aussi vachement, c'est l'allaitement exclusif. Alors, l'allaitement exclusif, dans un point écologique, ah bah, c'est presque autant que femme. Il faut allaiter parce que c'est meilleur pour les bébés. Il n'y a pas d'animalerie qui produit le lait en poudre. Il n'y a pas de déchets, etc. Il y a plein de raisons pour devoir allaiter. Mais là, on est d'accord avec Elisabeth Badinter, c'est que ça doit rester un libre choix des femmes. Et je dois avoir le choix d'allaiter ou de ne pas faire. Ça veut dire l'écologie est très importante, mais le libre choix de la femme est très important aussi. Si j'ai des raisons personnelles de ne pas vouloir allaiter, ça doit être possible et ça doit être pas une question, bah voilà, moralisateur, mais attends, là, tu pollues. Voilà, que ça reste quand même un libre choix des femmes, par exemple, sur cette question d'allaiter ou pas allaiter. Pareil, le même exemple, on pourrait le transmettre sur la pilule. Voilà, la pilule, aujourd'hui, elle est peut-être, on ne sait pas trop, elle est cancérigène ou pas, elle pollue aussi dans les fleuves, il y a plein d'hormones, etc. Mais quand même, je dois quand même, autant que femme, d'avoir les choix, est-ce que je veux des enfants ou je n'en veux pas, et sur le moyen de contraception aussi, parce que si, par exemple, les préservatifs d'ailleurs qui polluent aussi, bah, le seul peut-être truc qui peut être bien, c'est le stérilet en cuivre, et je dois avoir les choix. Si je ne veux pas de stérilet des cuivres, c'est peut-être pas une obligation à ça. Ça, c'est pas possible. Et là-dessus, on est d'accord avec Elisabeth Badinter.
Oui, quand...
Ouais, on peut. Oui, on est d'accord avec elle sur la question du choix. Après, il y a aussi la question des représentations qu'on a et de l'image qu'il y a. Et on peut quand même rappeler qu'Elisabeth Badinter est la principale rentière et actionnaire du groupe Publicis, 61e fortune de France. Donc, qui a parmi ses meilleurs clients les producteurs de petits pots pour bébés comme Nestlé, de Pampers, etc. Donc, sa vision aussi de ce qui peut rendre la femme libre est aussi conditionnée par cette pression à la consommation. Et il y a une surresponsabilité des femmes. Oui, là, on est d'accord. Et je sais, par exemple, sur la question de la pilule, moi, j'avais cherché un petit peu justement à savoir ce qu'on dit que le sexe des poissons dans les rivières a tendance à changer. En fait, le principal consommateur d'hormones, c'est l'agriculture. L'élevage industriel tel qu'il existe et utilise massivement des hormones aussi. Mais voilà, être informé des conséquences de chaque choix et que ça reste un choix.
Et pas quelque chose d'imposé.
Et que ces choix soient faits de manière consciente et non sous la pression de certaines industries ou de la société ou de certaines politiques conduites au niveau national ou au niveau européen. Parce que dans le cas de la pilule, les options qui sont offertes aux femmes... elles sont en fonction de ce que l'industrie veut bien produire. Il n'y a pas énormément de recherche qui est effectuée sur des modes de contraception qui soient écologiques et moins dangereux pour la santé. Ou pas dangereux, ça serait mieux, quoi.
Oui, donc c'est toujours cette problématique des grosses industries. Hein. Ces grosses industries, ces grosses entreprises qui font les choix à notre place, finalement. Hein. Donc c'est... Je crois que dans le cas de la décroissance comme du féminisme, c'est de reprendre le pouvoir sur nos vies pour avoir des vies qui respectent à la fois, certes, la planète, mais surtout aussi les êtres humains, que ce soit les êtres humains qui vivent dans les pays du Nord ou les pays du Sud, soit les hommes, les femmes, etc., quoi. Alors, je vous propose, pour rester sur la thématique, d'écouter une musique que Maya va nous présenter avant qu'on la passe.
Oui, c'est un groupe belge qui s'appelle René Binamé, donc ils font de l'anarcho-punk. Et voilà, c'est une chanson qui s'appelle « Tic Tac » et qui vient d'un album qui s'appelle « Le temps payé ne revient plus ». We'll be right back.
de la bière sans misère à noyer. Que d'aller travailler, plutôt jouir, que d'aller travailler. Je préfère de gambader dans la bruyère, de siffler sur la colline, de dormir sur la plage. Je préfère de retourner la terre, de manier la truelle, le ciseau, le laser, que d'aller travailler, plutôt jouer, que d'aller travailler. Je refuse d'être tué à la tâche, affamé au chômage pour cracher du profit. Je préfère de suer sang et eau en choisissant pour qui, pourquoi, où et quand et comment, que d'aller me détruire pour produire des nuisances qui détruisent à leur tour. Pour ne plus travailler, rien n'est à espérer, tout est à renverser, et sur la table rase, nous vous aimer.
Vous écoutez l'émission du collectif Debout sur RCN 90.7. Aujourd'hui, nous nous posons la question un monde plus écologique. Quelles conséquences pour l'égalité homme-femme? Et donc, en compagnie du collectif C14. Comme l'émission touche à sa fin, on va faire un petit peu un tour de table sur les dernières choses qu'on a envie de dire sur cette thématique. Voilà, donc un monde plus écologiste, quelles conséquences pour l'égalité homme-femme? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'ajouter?
Alors,
autour de la table,
moi, je veux bien proposer autre chose que le PIB pour mesurer le bien-être des populations humaines. Alors, c'est le BIB, le bonheur intérieur brut. Voilà, il y a aussi autres mesures qui tiennent compte de l'égalité homme-femme, de la répartition des richesses, de la santé. Voilà, il y a d'autres choses qui sont plus importantes. La crise économique, la crise écologique, les inégalités sociales sont là aussi pour nous questionner et nous permettre de réfléchir à l'utilité des activités humaines, à leur impact écologique, à leur impact sur les autres, et que c'est aussi une possibilité d'ouvrir en fait le
BIB, donc le bonheur intérieur brut. Moi, j'aime bien cet outil de mesure. D'autres propositions pour conclure un peu?
Moi, je veux bien lire une petite citation de la revue Silence, qui nous dit que des hommes nombreux doivent participer avec les femmes à la collaboration aux dégâts, à la non-collaboration, pardon, aux dégâts de la croissance, comme approvisionner localement, renoncer aux produits polluants, utiliser des denrées moins transformées et recycler au maximum, et plus précisément, cultiver et cueillir, ou aller faire le marché, éplucher et cuisiner, récupérer, raccommoder et réparer.
Donc, les hommes et les femmes ensemble, pas que les femmes pour toutes ces tâches.
Et on peut vous conseiller la revue Silence, effectivement, donc revue qui parle d'écologie, de féminisme et de transformation sociale. Donc Silence, que vous trouvez peut-être chez certains bons marchands de journaux, mais que sinon, voilà, vous pouvez vous abonner, vous pouvez voir des numéros sur leur site internet aussi.
Moi, j'aimerais bien que tout le monde ait une autre notion du temps, qu'on prenne tout simplement plus de temps pour faire des choses bien, pas à l'arrache et pas avec une pression sociale énorme comme aujourd'hui. Voilà, avec ça, j'aimerais bien qu'il y ait aussi une nouvelle définition du travail. Qu'est-ce que c'est du travail? Que le travail qui est non productif, dans un terme économique, voilà, que cette définition est détruite, que aussi des travails sociaux est valorisé dans notre société aujourd'hui.
Ah, plus de temps. Alors, à propos de temps, l'émission est en train de se terminer. Une dernière chose, Florian, vas-y. Non ? Alors, bah, on va revenir un petit peu sur l'actualité du collectif Debout, peut-être. Donc, notre prochaine réunion aura lieu le 18 juin à 19h30 au CCAN. Pour rappel, vous retrouvez toutes nos actualités sur notre site internet www.collectif-debout.org. Vous pouvez aussi nous contacter, alors soit par courrier au CCAN, donc CCAN, 69 rue Mont-Désert, 54 000 Nancy, soit par email à contact@collectif-debout.fr.
.org,
pardon, oui. Il faut que je sois cohérente, donc .org. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook qui s'appelle tout simplement Collectif Debout. Donc voilà un petit peu au niveau actualité, comme il va y avoir les congés d'été, ben, on n'a pas encore d'actualité avec des dates, mais on a des projets pour la rentrée 2014, parce qu'en 2015, il y aura la prochaine marche mondiale des femmes à travers le monde. La précédente, c'était en 2010, quand le collectif s'est créé. Et du coup, bah, cette marche mondiale, il va y avoir beaucoup d'actions à travers le monde, de manifestations, etc. Et le collectif Debout essaiera de travailler autour de ça dans ses prochaines actions.
Et vous pourrez aussi retrouver le collectif Debout lors des 150 ans de la première internationale, donc qui commence cet après-midi. Et donc tout le week-end du 13, 14 et 15 juin, ça se passe au Grand Sauvois à Maxéville, les 150 ans de la première internationale.
Oui, pour retrouver, pour leur programme, il y a un site internet, c'est 150 ans première internationale. Vous tapez ça avec Nancy, vous devrez retrouver le site internet parce que je ne me souviens plus du lien. Voilà, je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter du côté du C14.
Alors, ce mois-ci, nous animerons un atelier de cuisine vegan le 20 juin, donc pour découvrir la joie de la cuisine végétale et sans souffrance animale. Donc ça aura lieu le vendredi 20 juin de 18h à 22h. Et vous pouvez vous inscrire en contactant le C14 à l'adresse contact@c14-nancy-en-transition.net.
Voilà.
Et voilà.
Pensez à vous inscrire, hein. Les places sont comptées.
Et ça se passe donc au CCN, le centre culturel autogéré de Nancy, au 69 rue de Mont-Désert.
Voilà, donc là où est aussi le collectif Debout. Donc, cette émission se termine. On n'a plus qu'à vous saluer et vous dire peut-être à une prochaine fois. Donc, c'était l'émission du collectif Debout, collectif féministe nancéien et mixte. Au revoir,
à bientôt.
À bientôt.
Les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves, déprisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons. Sans entrave, debout, debout, debout.